Et en Ésaïe 55, dans Ésaïe, où Dieu parle au travers du prophète Ésaïe pour dire, il y a 700 ans, vos pensées ne sont pas mes pensées, ça ne veut pas dire que Dieu est tellement inaccessible qu'on ne peut pas avoir ses pensées. C'est quelque part que ma façon de penser, elle n'a rien en commun avec votre façon de penser qui est toute humaine. Vous voyez ? Pourtant, la mort atroce de Jésus avait été annoncée par les prophètes. Et c'est là où on voit le plan de Dieu qui est parfait. Regardez en psaume, le psaume 22. Donc c'est après Job. Le psaume 22, versets 7 à 9. Ou alors vous pouvez lire avec moi. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils secouent la tête et disent de moi, il a remis son sort au Seigneur, eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien, qu'il le sauve. Vous voyez, la peur de David, c'était bien longtemps avant Jésus, si on garde la chronologie. Notez juste Zacharie 12, verset 10, qui parle de celui qu'ils ont transpercé, en référence à la lance qui a été enfoncée dans le côté de Jésus. Donc on voit que ces prophéties, elles annoncent la venue de Christ. Dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Il y a plein de prophéties qui annoncent la venue du Christ. Je parle plus fort, d'accord. Mais dis-moi, on n'est pas peur, mon frère, hein, on est entre nous, là. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plein de prophéties qui annoncent la venue de Jésus. Et donc, Zacharie 2, 10 et psaume 22, sa mort. On a tué sur la croix, on a tué l'innocence. Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Alors, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser l'agneau. Moi, j'ai un peu essayé de réfléchir pour ne pas tomber dans le cliché. Agneau de Dieu immolé, qu'on chante, qu'on ne comprend pas trop. Ou alors, on ne prend pas le temps de comprendre la portée du mot. Mais que dans la Pâque juive, vous regarderez tout le chapitre d'Exode, qui explique bien que les Juifs prenaient un agneau, l'égorgeaient. Les péchés étaient sur l'agneau et ils laissaient partir l'agneau au désert. Symboliquement, c'était pour recevoir le pardon de leurs péchés en sacrifiant un agneau. Exode 12, 46, l'agneau ne devait avoir aucun os brisé. Quand Jésus est mort, il n'a eu aucun os brisé. Alors, si on regarde de plus près la crucifixion, on voit que c'est quand même, j'aurais envie de dire âme sensible, s'abstenir, mais bon, c'est bien des fois de prendre le temps de souvenir de ce que ça signifie la crucifixion. Après une douloureuse agonie, les victimes crucifiées meurent de suffocation car elles ne trouvent plus la force de soulever leurs jambes, mouvement nécessaire au fonctionnement normal de leurs poumons. Petit à petit, les poumons se remplissent de gaz carbonique et elles meurent. Par conséquent, le fait de leur briser les jambes met fin à leur vie beaucoup plus vite. Jean 19, 32, 33, Jésus n'a pas eu les jambes brisées. Donc ça permet d'accomplir la prophétie. Le passage qui annonce le plus la mort de Jésus, on l'a chanté vendredi à la soirée de louange en Ésaïe 53. Mais je vais quand même le relire parce que je me dis, ah, c'est intéressant. On le lit vendredi, on le lit aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment quelque chose à comprendre. Alors, Ésaïe 53, 2 à 6. Ésaïe est un prophète qui a écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Donc il n'y avait aucun moyen qu'il y ait un lien entre Ésaïe et Jésus. 700 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous imaginez, comme dit mon mari, c'est un truc de ouf. Je cite. Et là, écoutez ce que dit Ésaïe, c'est vraiment très puissant. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, de tes fautes. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Vous voyez, quand on m'y tue, moi, déjà, c'est beaucoup plus personnel. C'est pas oui, il est mort pour le péché du monde, il est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors la croix pour moi, c'est comme si Jésus, il s'était préparé toute sa vie pour ce moment, pour être prêt à aller jusqu'au bout de son destin. Et je me rappelle à 13 ans, il y a deux films que je regardais souvent. Bon, je ne suis pas très originale, mais tant pis. Un, La petite maison dans la prairie, pendant les vacances, en boucle. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à la télé. Et Jésus de Nazareth. Je crois que c'est Zéphirie. Et ce film, si vous l'avez vu, honnêtement, ça prend aux tripes. Jésus est cloué sur la croix, il est couvert de sang suite au coup de fouet. Et moi, j'avais 13 ans déjà à l'époque, et j'étais en larmes devant la télé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pleurais abondamment. Et pour ceux qui m'ont vu récemment pleurer, quand je pleure, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai pleuré. Vraiment. Parce que je trouvais ça tellement injuste. Et j'étais toute seule devant la télé, mais Dieu de mes 13 ans, je lui disais, oh, mais non, mais pourquoi on tue Jésus, pas Jésus? Et quand il y a sur la croix, on demande qui vous voulez que je relâche, Jésus. Je vous assure, ça m'émouvait. Je disais, mais non, pas Jésus, le voleur, celui qui mérite. C'est-à-dire que déjà très tôt, on a la conscience de qui mérite un châtiment. On fait une bêtise. Voilà, on est puni, on va en prison, mais Jésus. Voilà. Là, vous voyez, la logique de Dieu nous dépasse. Ça nous dépasse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que vous allez vous approprier la mort de Jésus. Ça ne reste pas juste le petit Jésus dans la crèche. Mais voilà, Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Et du coup, ça change la donne parce qu'on a envie de vivre une vie de reconnaissance. Si Jésus est mort à ma place, qu'est-ce que je peux faire? La logique de Dieu nous dépasse. Philippiens 2, versets 6 à 11. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage, ça nous enseigne l'humilité. Alors j'ai une question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes humble? Levez la main, est-ce qu'on a des gens très humbles ce matin? Bon, c'est bien, parce que sinon, je me suis dit là, on aurait eu du problème. Mais souvent, moi, je me voyais humble hein, quand j'étais jeune. J'allais confesser au prêtre toutes les semaines, je refaisais les mêmes péchés, puis après, je me disais, ouais, c'est quand même pas bien. J'allais reconfesser mes péchés, je me sentais mieux, Ave Maria, je vous salue. Là. Je refaisais les mêmes péchés, alors vous imaginez à la fin la fatigue. C'est un peu se moquer de Dieu au passage, mais bon, bah, c'est comme ça, on m'a appris à faire ça, alors je priais, et j'avais un pied dans le monde, un pied dans ma vie spirituelle, j'étais tiraillée. Mais des fois, voilà, on peut vivre nos vies comme ça. L'humilité. Alors j'ai un ami à l'Institut biblique qui m'a donné sa définition de l'humilité cette semaine. Il m'a dit, l'humilité, c'est reconnaître son besoin de Dieu et reconnaître son besoin des autres. On n'est pas destiné à vivre tout seul nos souffrances. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Mais je vous assure, si vous essayez d'aller vers les autres, eh bien, comme Jésus, vous prendrez le chemin de l'humilité. Jésus n'a pas cherché à éviter son destin à tout prix. Si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et c'est là le degré de soumission ultime. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ni pourquoi je dois autant souffrir, Dieu, je vais continuer à te faire confiance. Tu es Dieu, tu sais ce que tu fais. Dieu tient toutes les circonstances de votre vie entre les mains. Il ne vous a pas oublié, il n'est pas en train de faire autre chose pendant qu'il vous arrive tous les problèmes de la terre. Dieu tient votre destinée entre ses mains. Et ça, moi, ça me fait me lever le dimanche pour venir à l'église, parce que ça, c'est réconfortant. Vous vous levez le matin, vous êtes à l'endroit où vous devez être, au moment où vous devez être, avec l'autorité que vous devez être, avec le travail que vous devez faire, parce que vous êtes choisi. Dieu vous a choisi pour faire ça. Et pas autre chose, c'est vous qui l'a choisi. Tout le monde. Pour faire des grandes choses, des petites choses, des moyennes choses, mais pour faire quelque chose, on est dans un endroit particulier pour un destin particulier. On n'est pas le fruit du hasard, on n'est pas... Dieu nous a voulu. Et ça, ça m'encourage. Jésus est venu pour une chose, nous permettre de communiquer avec Dieu, d'avoir une relation personnelle. Moi, je peux vous assurer, j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut qu'on lui parle cœur à cœur. Hélène, j'ai une amie que je connais depuis 15 ans, on ne se voit pas souvent, mais alors quand je passe du temps avec elle, une fois par an, j'essaye. Mais j'essaie de tout rattraper de ce qui m'arrive en un an, mais vous me connaissez, je suis une grande bavarde. Mais là, avec Hélène, c'est encore pire. Parce que j'essaie de rattraper, et je dis, oh là là, puis attends, je t'ai pas raconté ça. Et bien Dieu, il veut qu'on ait cette même relation. Que ça soit chez vous, que ça soit dans la rue, que ça soit votre travail. Voilà, vous pouvez avoir cette relation personnelle avec Dieu. Dieu, il vous cherche. Et la première écriture que j'ai lue, qui m'avait vraiment touchée, quand on m'a offert une Bible et j'ai commencé à la lire, c'est en Jean 4, 14, pardon, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus nous dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais... Il vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Donc la fausse doctrine des témoins de Jéhovah qui disent qu'il y a 144 000 personnes sauvées, ce n'est pas biblique. Et Dieu serait vraiment sadique et cruel. Ah, trop tard, c'est fermé, il fallait venir après. Non, non, il y a des places. Il y a de la place au paradis pour chacun. C'est une bonne nouvelle, non ?
Amen.
Merci. Et là, cette écriture, ça m'a montré que, waouh, Jésus prépare une place au paradis pour moi. Je ne sais pas n'importe qui, quoi. Pour moi, pour toi. C'est ce que je veux dire ? Alors, il y a un pasteur baptiste qui s'appelle Rubin Sayens, qui est le fondateur de l'Institut biblique, qui a dit... Merci mon chéri, c'est mon mari qui s'occupe de la technique. Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde tout entier. Je répète, Christ tout entier dans la Bible tout entière pour le monde tout entier. C'est-à-dire que pour comprendre le plan merveilleux du salut pour l'humanité, on doit comprendre et chercher Jésus dans sa totalité. On ne peut pas avoir des petites images de Jésus. Vous voyez, c'est comme essayer de connaître quelqu'un juste le dimanche, et pas le lundi ou pas le mardi. On a besoin d'avoir cette vue d'ensemble. Donc Jésus n'est pas la victime d'un destin tragique, d'abord parce qu'il a choisi de faire la volonté de Dieu, si difficile qu'elle soit, parce qu'il savait que Dieu tirerait du bien de sa mort. Il a embrassé sa destinée avec courage pour montrer son obéissance à Dieu. Jésus, il est venu ôter le péché du monde, parce que nos péchés, si vous voulez, ont mis comme une barrière entre nous et Dieu. Colossiens 1, verset 22 dit « Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humilié, Dieu vous a réconcilié avec lui afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. » Alors peut-être vous avez déjà été fâché contre quelqu'un et vous savez qu'on est fâché contre quelqu'un, on se repasse en boucle ce que la personne nous a dit de blessant. Mais quand même, cette personne, elle m'a dit ça. Quand même, cette personne, elle a fait ça. Et donc, du coup, les mauvaises pensées deviennent comme un circuit dans notre tête qui repasse et repasse et repasse, au point où on est tellement blessé qu'après, on n'arrive même plus à parler à la personne. On dit, oh non, cette personne, alors, je ne veux pas la voir, c'est même pas la peine. Oh, je la vois, non, je fais son, je ne la vois pas. Moi, ça m'arrivait récemment, il m'avait... Enfin, voilà. Ouf, mince, le micro, je vais l'exciter. Mais ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, non, mais quand même, je crains, quoi. Je suis chrétienne et je suis là. Et j'essaie de savoir pourquoi j'étais... Qu'est-ce qui m'avait blessée ? Bon, c'était pas un truc super important, mais ça m'avait blessée quand même. Et je me dis, ouais, quand même, hypocrite, cette personne, avec moi. Parce que moi, je suis comme Amélie Poulain, super idéaliste. Donc, je me suis dit, mince. Et il a fallu que je me dise, non, Nat, tu dois pardonner. Maintenant, après, il y a un effort sur le pardon, etc. Mais voilà, on a des choses contre quelqu'un et après, on voit que ça s'envenime. Et du coup, c'est pareil avec Dieu. Si on a des choses qu'on cache ou des choses dont on n'est pas fier, et, du péché hein, ou des mauvaises choses dans notre vie, bah, ça empêche la relation qu'on peut avoir avec Dieu, comme un mur. Il y a une séparation. Et plus on pêche, plus on fait des mauvaises choses, plus le mur devient épais. Et c'est pas que Dieu ne peut pas nous écouter. Parce que justement, on a en Ésaïe 59, verset 1 à 2, une écriture qui est dans ce sens-là. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre, pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Donc, vous voyez, la laideur du péché met en relief la bonté du Seigneur. Et si on ne comprend pas la laideur du péché qui est en nous, on ne pourra jamais comprendre ce que Christ a fait pour nous. Le péché, c'est comme une infection virale. C'est comme se lever un matin et on vous dit « Je suis désolée, vous avez le sida, madame ou monsieur. » Ou un cancer qui va ravager votre corps au point de ne laisser rien d'intact en lui. Et vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Je cherchais à comment illustrer le péché pour vraiment penser à la chose la plus répugnante. Et j'avais eu envie de mettre des photos de lépreux. Et mon mari m'a dit, peut-être pas. Donc, vous avez échappé, pour dire merci à Sébastien. Allez juste sur Internet, vous allez voir à quoi vous avez échappé. Mais je cherchais vraiment une illustration. Il m'a dit, bon, peut-être pas, meilleure idée. Mais c'est vrai, si vous regardez... C'est terrible hein, de savoir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont la lèpre et qui ne peuvent pas, qui ne sont pas guéris alors qu'on pourrait leur faire des vaccins et qu'on voyait comment la lèpre, ça ronge tout. Il ne reste plus rien, il ne reste même pas les membres. Quoi. C'est quelque chose d'assez atroce. Mais le péché, c'est pareil. Ça nous ronge, on est infecté. Et on est tous infectés du sida, on est tous infectés de la lèpre ce matin. Regardez, par exemple, je ne regarde pas trop, qui a déjà menti une fois, levez la main. Levez la main si vous êtes... Je regarde vaguement, hein, je regarde en diagonale pour ne pas vous en vouloir après. Merci, c'est bon. Ne regardez pas votre voisin bizarrement. Ok, qui a déjà volé ? Je ne sais pas, un stylo qu'on vous donne, vous oubliez, vous mettez dans votre sac. Allez, allez, je sais qu'il y en a là, faites pas là. Hein. Soyez honnête devant le Seigneur là. Voilà, merci. Bon, on va arrêter là, je ne vais pas faire la liste de vos péchés, de mes péchés, ce n'était pas le but. Hein. Mais l'objectif, c'était de vous montrer qu'en fait, on n'est pas parfait. On essaye de faire le bien, mais on n'y arrivera jamais. Quand j'avais 18 ans, j'ai instauré ma propre conception du bien et du mal. Alors, je me disais, par exemple, bon, d'accord, je fume des pétards, mais attends, je ne me drogue pas. Je ne prends pas de la cocaïne. Quand même. Bon, je bois de temps en temps. Mais attends, je ne roule pas par terre, hein, je peux rentrer chez moi. Je retrouve mon chemin. Quand même, il y a des gens aussi. Ah, regarde, ces alcooliques-là, ils sont dépendants de l'alcool, mais c'est immonde. Vous voyez, et je vous assure, j'étais comme ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a une image, on peut se dire, mais moi, ça va, je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Forcément, si on se compare au pire du pire, là, forcément, on est bien. Donc tout ça, c'était pour vous illustrer, mais malgré tout, je suis super sérieuse. Hein. Ne croyez pas que je dis ça juste pour vous faire rigoler, c'était vraiment ça. Donc vous voyez qu'on essaye de toute façon de cacher ce qu'on fait de mal, parce qu'au fond, nous-mêmes, ben, on veut passer pour quelqu'un de bien. Je vais vous présenter à quelqu'un. Bonjour, Nathalie, alcoolique, menteuse, voleuse, enchantée. Forcément, j'aurai pas d'amis à la fin. Romains 3:12 dit, il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est quand même une écriture très puissante. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de faire des bonnes choses pour Dieu, mais c'est pour montrer à Dieu notre reconnaissance. C'est pas ça qui va nous gagner le salut. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. Alors, le destin fabuleux et unique de Jésus, parce qu'après les larmes, vient la joie. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous donner la vie éternelle. C'est ce que dit Jean 3,16, une des écritures les plus connues. Et c'est pour Dieu, c'était un sujet de larmes. Je ne crois pas que Dieu l'a fait en disant « Oui, bon, je donne Jésus. » Mais je pense que c'était un sujet de tristesse, mais pas d'autre solution. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que c'est un sujet de joie. Pour deux raisons. D'abord parce que cette fin tragique marque la fin d'une illusion. Ce matin, partez avec la conviction que vous n'êtes pas bon. Je ne suis pas une bonne chrétienne ou une bonne femme. En plus, en ce moment, ça chauffe avec mon mari. Alors, je vous dis, je vois mon péché. Dieu me le montre bien. Je le vois. On n'est pas bon. Il y a du péché en nous, ça, c'est sûr. Personne qui fasse le bien, pas même un seul. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et peut-être que vous pensez, mais oui, mais moi, ça va. Tout va bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Mais moi aussi, je le croyais dans ma jeunesse. Mais j'étais quand même super orgueilleuse parce que je ne reconnaissais pas mon besoin des autres. Et tant que je ne reconnaissais pas que j'avais besoin des autres, ben, j'avais mon propre critère du bien, du mal. Et donc, du coup, ben, on vit un petit peu isolé. Et puis, un jour, j'ai une amie qui m'a offert la Bible. Et je me disais, oui, mais je la lirai quand je serai vieille. Alors, quand j'aurai 50 ans. S'il y a longtemps, hein, j'ai rien contre les gens qui ont 50 ans, j'en ai 46, donc ne le prenez pas personnellement. Mais je me disais ça, je me disais, ouais, non, c'est vrai, quand même, la Bible, c'est super spirituel de lire la Bible. Je lirai quand je serai vieille, devant mon feu de cheminée, un peu à la petite maison dans la prairie. Tu sais, quelqu'un qui joue le violon, putain, t'es là, sur ton rocking. Donc, voilà, j'avais un peu cette image. Et à 23 ans, m'offrir la Bible, je dis, une amie, elle me dit, mais lis la Bible, lis la Bible. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, allez, je vais lire. Et je suis tombée donc, sur Jean 14, où Jésus me dit qu'il me prépare une place au paradis. Et ça m'a tellement touchée, parce qu'à partir de ce moment, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, oh, j'aime Jésus. J'aime pas la religion, j'aime pas les choses à faire, ça m'intéresse pas, comme je pense que ça vous intéresse pas. Mais j'aime Jésus, quoi. Jésus. Ah là là. Donc un jour, j'ai pris une feuille et j'ai fait liste de tous mes péchés. C'était long, c'était humiliant. Mais après, c'était nécessaire parce que quand, à 23 ans, j'ai pris la décision adulte de me faire baptiser, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une ancienne moi et une nouvelle moi. Je n'ai pas toujours été chrétienne, pratiquante, à essayer de pardonner à mes ennemis politiques et autres. Je n'ai pas toujours été comme ça. Par nature, je suis comme tout le monde. Par nature, on me fait du mal. Ah ouais, moi, j'étais comme ça avant. Ah, tu me fais du mal, d'accord, tu vois. D'accord, fais-moi du mal. Mais alors après, tu vois, ma vengeance là, ça va faire mal. T'inquiète pas, je dis rien, mais alors après, quand je vais me venger, j'étais vraiment comme ça, je me disais ça. Et c'est vrai qu'après, on se dit, mais quelle énergie on met dans tout ça, quoi. Quelle énergie on met dans nos vengeances ou dans le fait qu'on retire du mal contre quelqu'un, ça vaut pas la peine. Le destin tragique de Jésus marque le commencement de notre espérance. 1 Corinthiens 15, 14, et là, vous pourrez lire chez vous tout le passage de 1 Corinthiens. Qui parle de la résurrection de Jésus. Vous pouvez écouter si vous voulez. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Votre foi aussi est vaine, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de croire si Jésus n'est pas ressuscité. Vous êtes encore dans vos péchés, et donc vous mourrez dans vos péchés. Si c'est dans cette vie seule que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors ce matin, comment vous allez réagir à ce message ? Deutéronome 30, verset 20 dit « Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part et la malédiction d'une part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre. » Donc ce matin, on a le choix entre accepter ou rejeter le salut. En Luc 2, versets 29 à 32, Siméon, c'était un homme qui voulait voir le Messie avant de mourir. Quand il voit Jésus dans le temple, il dit « Ah, maintenant Seigneur, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. » Ce salut, c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde. Le salut, c'était pas un révolutionnaire, c'était pas une guerre, c'était un homme, c'était une personne, c'était Jésus-Christ. le salut est une personne. Et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de recevoir gratuitement le salut? C'est l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 13 ans. Elle s'appelait Chantal. Et je me disais, mais... J'avais une maxime, je me disais, mais rien n'est grave sauf la mort. Donc je peux vous assurer, j'étais une dure à cuire. Pour vraiment faire pleurer, il fallait vraiment y aller et se lever tôt. Parce que je me suis dit, bon ben voilà, j'ai 13 ans, besoin de personne, je vais m'élever toute seule, hein, tant pis. Mais je me dis, mais si ma mère n'a pas été là pour moi, qui va être là pour moi? Et des fois, ça peut être un deuil, on perd quelqu'un de très proche, ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être, je sais pas, un viol, ça peut être des choses encore plus graves. Et puis on se dit, mais attends, si ça m'arrive, mais alors, et Dieu alors? Tu rigoles ou quoi? Mais vous voyez, assez étrangement, quand j'étais petite et quand ma mère s'est suicidée, je ne me suis pas dit, Dieu, je remets tout en question. J'étais triste pour elle. Parce que comme on parle de destin, elle avait la foi, elle avait été baptisée catholique. Puis comme elle était pied noir d'Algérie, elle avait été traumatisée par la guerre d'Algérie. Elle s'était mariée pour que son mariage règle des problèmes, ça n'avait rien résolu. Et du coup, elle avait divorcé, j'avais 7 ans, et puis après elle était déprimée. La fin inévitable. On n'a plus d'espoir. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin si on n'a plus d'espoir? Et j'espère que ce matin, s'il y a quelque chose qui vous empêche de venir à Jésus, peut-être un père qui était absent, peut-être quelque chose, je ne sais pas, si entre vous et Dieu, ne laissez vraiment pas ça vous empêcher de connaître Dieu. Oui, le destin tragique de Jésus marque le commencement de notre espérance. Pour conclure, je dirais que croire en Jésus, c'est croire en la vie éternelle. Dieu avait tout prévu dans son plan parfait. Dieu nous veut tous au paradis. Il y a des places pour tout le monde. Pour toi, 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 pour toute l'humanité. Je suis allée sur Google, vous savez combien d'êtres humains auraient été sur la Terre? Alors c'est Google, hein, d'accord? C'est 109 milliards. 109 milliards, oui. Donc, dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu, il veut qu'on soit tous sauvés. Peu importe qui on est, notre nationalité, peu importe d'où on vient, peu importe si on est riche, si on est pauvre, si on est marié, célibataire, il veut qu'on soit tous sauvés et qu'on accepte le salut. Mais toi, un défi pour toi. Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question? Pas facile. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu transformer ton orgueil? Oui, mais moi, c'était pas facile. Croire en Jésus, c'est croire que ton esprit ne mourra jamais. On va tous mourir. C'est une question de temps. Mais croire en Jésus, c'est croire que ton esprit ne mourra jamais. Et c'est plus que ce petit quelque chose après la mort. Non, c'est une vie éternelle. Il y a Christ assis à la droite de Dieu. Apocalypse 5, verset 9. L'agneau qui a acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nationalité. Jésus nous ouvre la voie du salut, la voie vers l'éternité. Alors, ce matin, choisis la vie. En rentrant chez toi, demande-toi, demande à la personne qui est proche de toi, demande à ton mari, demande à ta femme, qu'est-ce que tu crois que je peux changer? Ou qu'est-ce que tu crois que Dieu a besoin de changer en moi? Demandez à votre mari, à votre femme, est-ce que j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Et marquez un silence. Pour écouter si vous avez blessé et si vous devez demander pardon. Ah oui, l'humilité, ça peut être très abstrait, mais quand ça devient du concret. D'aller voir notre mari et dire, ouais, je t'ai délaissé, ou si cela, j'étais orgueilleuse, je t'ai pas fait sentir que j'avais vraiment besoin de toi, je me la suis un peu indépendante, j'arrive toute seule. Enfin, moi, je parle de moi et mon mari, au cas où vous n'avez pas vu l'illustration, là, vers la fin. Donc ça, c'est le chemin de l'humilité. Plus besoin de prouver qui on est. Jésus nous laisse par sa vie et par sa mort un exemple pour que nous puissions vivre comme il a vécu. On va finir par un chant. Je vais inviter les musiciens à venir s'installer. Par sa mort, Jésus nous donne un exemple pour qu'on puisse vivre comme il a vécu. Et on trouvera ainsi le vrai bonheur, non pas en nous-mêmes, mais en Jésus. Amen. Levons-nous pour un dernier chant. Je vais prier rapidement. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour tout ce que nous avons fait sur Jésus. Aide-nous à mettre en pratique chez nous tout ce qu'on a appris et à nous remettre en question par rapport à ce que tu attends de nous. Merci pour ta grâce, ta bienveillance. Au nom de Jésus, amen. Chantons.